Vous écoutez, on lit pour vous.
Les sept mythes qui vous empêchent de faire du ménage. Un texte de Dori Trevelyan du New York Times, paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir. Devant la masse de conseils et de produits qui existent, il peut être difficile de savoir à quoi s'en tenir lorsqu'il s'agit d'organiser sa maison. Un espace bien rangé offre pourtant bien plus qu'une vie matérielle simplifiée. Selon la Dr. Peggy Liu, psychologue agréée et directrice clinique du Manhattan Therapy Collective, il y a indéniablement des bienfaits pour la santé mentale à vivre dans un espace où l'on se sent à l'aise, dont on a l'impression qu'il nous appartient, où l'on peut être soi-même. Nous avons donc consulté des experts pour déconstruire quelques-uns des grands mythes en matière de rangement et pour savoir ce qu'il convient de faire. Mythe 1. Je dois acheter plein de paniers et de séparateurs avant de pouvoir m'organiser. Les étiqueteuses, les séparateurs de tiroirs en acacia et les petits récipients en plastique transparent pour ranger ces boules de Watt, c'est joli dans un petit espace, mais l'objectif premier devrait être de simplement désencombrer une pièce jusqu'à ce que tout soit facilement accessible et visible. Selon Dana K. White, autrice de Decluttering at the Speed of Life. L'achat de ces accessoires peut même vous empêcher de vous lancer. Il faut prendre des mesures avant d'acheter quoi que ce soit, et cette étape en elle-même constitue un obstacle, explique Christine Newrotson, créatrice de contenu spécialisé dans les vidéos de rangement. Et bien sûr, si un tiroir est trop plein, ranger son contenu dans de jolis compartiments rendra peut-être les objets plus faciles à repérer, mais il y en aura toujours trop. Christine Hivey, coach en désencombrement, estime que, même après avoir fait le tri dans une zone encombrée, il vaut mieux attendre avant d'investir dans de nouveaux articles de rangement. Elle recommande plutôt de faire un essai avec ce qu'on a déjà à la maison. On peut réutiliser des plateaux, des contenants Tupperware ou des boîtes vides, dit-elle. On peut ainsi ranger les objets à l'endroit le plus logique sans avoir gaspillé d'argent sur des articles de rangement inutiles. Mythe 2. J'aurai peut-être besoin de ce câble un jour, ou de ce parfum miniature, ou de ce pot d'épices, ou de cet appareil dentaire mal ajusté. Pour évaluer ce qui est réellement indispensable, Madame Hivey suggère de se demander à quel point chaque objet est précieux. Si je peux remplacer cet article en 20 minutes et pour moins de 20 $, alors ça vaut peut-être la peine de m'en débarrasser, dit-elle. Naima Ford Goldson, organisatrice professionnelle, suggère de penser à la dernière fois qu'on a utilisé l'objet. Un bon indicateur pour les articles sans date de péremption. Se débarrasser ou faire don de ceux qu'on n'a pas utilisés depuis plus d'un an, conseille-t-elle. Il peut toutefois être difficile de se défaire d'un objet, même lorsqu'on a constaté qu'il ne sert plus à rien, souligne la Dr. Liu. Américaine de première génération, elle fait remarquer que des facteurs culturels et émotionnels peuvent entrer en jeu. « J'ai grandi avec des parents qui me disaient de ne jamais rien gaspiller, » dit-elle. Je crois que, pour beaucoup d'entre nous, cette difficulté découle d'une crainte intériorisée de rareté. Madame Hivey suggère de ranger ces objets dans une boîte temporaire. Le fait de voir votre maison organisée peut vous aider à réaliser que ce câble, en réalité, n'y a vraiment plus sa place et que vous pouvez vous en séparer, dit-elle. Mythe 3. Je dois tout sortir pour faire le tri. Pour beaucoup de gens, l'idée d'amonceler tous leurs objets à un endroit est un frein majeur au commencement du ménage. Pendant le processus, il y a un peu de chaos avant que le calme s'installe. C'est inévitable quand on change quoi que ce soit dans sa vie, affirme Madame Hivey. Mais il y a des façons de procéder qui sont raisonnables et qui ne vous déstabiliseront ou ne vous épuiseront pas. Si une cliente possède un grand nombre de vêtements, par exemple, elle lui recommande de commencer par une catégorie à la fois. Vider un tiroir de chaussettes, par exemple. Mythe 4. Je n'ai pas le temps. Madame New Rootson s'est bâti une communauté sur TikTok en déconstruisant les idées reçues sur le temps que prend le désencombrement dans sa série de vidéos intitulée « How long does it take? » « On n'a vraiment pas conscience du temps que les choses prennent réellement », dit-elle. Elle suggère de régler une minuterie sur 15 minutes et de voir jusqu'où on peut avancer ou de se chronométrer sur une tâche pour savoir combien de temps afin de planifier la prochaine fois. Plutôt que de viser l'achèvement total, qui peut sembler impossible, elle et d'autres experts recommandent de commencer petit et de faire avancer le projet au fil du temps dont on dispose. Souvent, après 5 minutes de travail, les gens se sentent motivés pour en faire 5 autres, selon Andrew Mellon, expert en organisation. Une fois qu'on se met en action, on se dit « Ah, ce n'était pas si terrible, pourquoi j'avais aussi peur ?» dit-il. Mythe 5. Je devrais me récompenser une fois que j'ai terminé. Si la gratification différée fonctionne pour certains, Madame New Rootson propose une autre approche. On peut se récompenser pendant le processus, dit-elle. Plutôt que d'allumer une belle bougie une fois son espace parfaitement organisé, par exemple, elle en allume une pendant le processus pour s'encourager et se prépare aussi une boisson qu'elle aime, pendant la tâche, pas après. Madame New Rootson suggère d'ailleurs de rendre le désencombrement aussi agréable que possible. Écouter un balado ou un album favori, ou faire jouer un épisode divertissant en arrière-plan. Attention toutefois à ne pas trop se laisser absorber. M. Mellon ne peut écouter certaines musiques parce qu'il se laisse emporter par les paroles. « J'ai besoin de toute mon attention pour me concentrer », dit-il. Mythe 6. Une fois que c'est fait, c'est fait. Si seulement. Le plus grand piège, c'est de croire qu'on n'a qu'à s'organiser une fois et que c'est réglé, dit Madame Ford Goldson. Même après le grand ménage initial, il faut consacrer du temps de façon régulière à maintenir ce qu'on a accompli. La meilleure façon d'y arriver, dit-elle, est de l'intégrer aux tâches qu'on fait habituellement. Elle nettoie ainsi son réfrigérateur et son garde-manger une fois par semaine, après les courses, en contrôlant les dates de péremption et en jetant les vieux restes. Pour éviter que le désordre revienne en douce, M. Mellon recommande la règle « un qui entre, un qui sort ». On peut acheter un nouveau chandail, une tasse ou une serviette de bain, mais seulement si on en retire un en même temps. Madame White juge cette philosophie particulièrement utile pour encourager les enfants à faire le tri. On leur dit qu'ils peuvent garder les jouets qui tiennent sur une étagère et qu'on donnera le reste. Il y a quelque chose de libérateur à laisser l'espace jouer le rôle du méchant à ma place, dit-elle. Mythe 7. Vous êtes une meilleure personne quand vous êtes plus ordonné. Les experts mettent en garde contre le fait d'attribuer une valeur morale à son espace physique. En réalité, s'organiser et le rester est plus facile pour certains que pour d'autres. Ce qui a été le plus libérateur, c'est quand j'ai réalisé que mon cerveau fonctionne différemment de celui des gens naturellement organisés et que ce n'est pas une erreur, dit Madame White. Madame Hivey suggère même d'adoucir le vocabulaire qu'on utilise pour désigner ces espaces en désordre. Se parler négativement quand on essaie de prendre de bonnes décisions, ça amplifie tous les sentiments négatifs, la peur, la honte, la culpabilité, tout ça. Plutôt que d'appeler ça votre chaise à linge ou votre tiroir à cochonnerie, suggère-t-elle, appelons ça peut-être une chaise de transition ou un tiroir débarras. Et peut-être que vous n'êtes pas un désastre non plus, juste une personne qui fait de son mieux. C'était « Les 7 mythes qui vous empêchent de faire du ménage », un texte de Dorrie Chevelin du New York Times paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir.
Je doute, donc je décide. un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 18 mars 2026 dans la presse. On aime croire que nos prises de décision reposent sur notre logique et non sur notre émoi. Pourtant, ce qui déclenche notre réflexion est une émotion négative qu'on cherche simplement à fuir. Le doute. C'est l'hypothèse, très résumée, je l'admets, de Cédric Corcial, docteur en psychologie associé au laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'Université Clermont-Auvergne. Il a accepté de m'accorder une entrevue pour ébranler ce que je pensais savoir au sujet de notre fameuse raison. Commençons par la base. Si on se fie aux théories du raisonnement, quand on prend une décision, on le fait par intuition ou délibération. L'intuition est automatique, on arrive tout de suite au résultat sans trop savoir quel chemin notre pensée a emprunté. Vous avez perdu vos clés, votre intuition vous dicte spontanément d'aller voir dans la pièce où vous vous trouviez il y a un instant. Ce n'est pas particulièrement logique, mais ce n'est pas une mauvaise idée non plus. La délibération, elle, vous demande de l'énergie. Vous devez réfléchir et imaginer différents lieux où vous pourriez retrouver votre satané trousseau. La question qui demeure, si ces modèles sont justes, c'est « qu'est-ce qui nous fait passer de l'intuition à la délibération ?» Avec sa thèse de doctorat, la place de l'émotion dans le raisonnement, le doute comme déclencheur de la réflexion, Cédric Corcial ajoute aujourd'hui sa voix à celle de scientifiques qui s'intéressent à l'enjeu. Il m'a expliqué qu'en général, l'humain a une forme d'intolérance à l'incertitude. Le doute, on ne trouve pas ça agréable. Quand on le subit, on cherche à le diminuer, et on le subit lorsque notre intuition nous fait défaut. Si on n'a pas la réponse à une question qui nous paraît importante, on ressent une émotion négative. C'est ce doute qui va nous motiver à dépenser de l'énergie cognitive, estime Cédric Corcial. Pour le dire très rapidement, le raisonnement, c'est une manière de gérer nos émotions, dit-il. Pas spécialement de trouver la vérité ou de répondre de manière la plus efficace ou logique à des problèmes, mais de réguler nos émotions. On s'éloigne pas mal de l'idée des décisions rationnelles prises hors du spectre émotif, hein ? Ce qu'on défend, c'est que l'émotion est au cœur du mécanisme du raisonnement, insiste Cédric Corcial. Donc, elle est utile. On ne nie pas pour autant le fait que les émotions vont avoir un impact sur la manière dont on délibère. Le docteur en psychologie estime que le doute est une catégorie d'émotions qui englobe la surprise, la confusion et l'anxiété. La surprise est passagère, la confusion est liée à des informations contradictoires et l'anxiété est relative à des événements potentiellement dangereux. Cédric Corcial y va d'un exemple éloquent. Vous rentrez chez vous et des gens vous accueillent en criant « Bonne fête !» Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous réfléchissez vite. « Ben oui, c'est mon anniversaire. Oh, trop cool !» Fin de la surprise. Vous avez rapidement résolu le problème. Imaginez le même scénario. Mais ce n'est pas le jour de votre anniversaire. Confus, vous devrez réfléchir plus longtemps. Ils se sont trompés de date. C'est une blague. Cette fête n'est pas pour vous. Imaginez maintenant que vous ne connaissez pas les personnes qui crient « surprise » en vous voyant. Sont-elles dangereuses, dérangées? Devriez-vous vous sauver? Salut l'anxiété! La surprise, la confusion et l'anxiété, c'est une sorte de gradient qui va nous forcer à plus réfléchir, résume Cédric Corcial. Ce que je trouve fascinant dans toute cette histoire, c'est qu'on ne célèbre pas beaucoup le doute. J'ai l'impression qu'on applaudit l'intuition et les certitudes chez nos gestionnaires, mais qu'on s'incline rarement devant les « je ne sais pas ». Ce qui mène pourtant, si l'on en croit Cédric Corcial, à la réflexion. Doit-on réhabiliter le doute ? C'est plus compliqué que ça, nuance le chercheur. D'abord parce que notre intuition est souvent juste. En général, on prend de très bonnes décisions par l'intuition, mais il faut être honnête avec les résultats et les données qu'on a. La délibération améliore effectivement un peu notre performance, précise-t-il. En fait, le doute n'incarne ni notre salut collectif, ni un obstacle au bonheur, croit Cédric Corcial. Je répondrai à celles et ceux qui pensent que le doute, c'est la clé de la résolution des problèmes, qu'il provoque aussi énormément de confusion et de baisse du bien-être. Si on est trop incertain, on risque de tomber dépressif. Mais je dirais que ce n'est pas non plus le méchant qu'il faut éviter à tout prix. Refuser de se remettre en question, ça nous rend difficilement agréable pour les personnes qui nous entourent. Merci pour ce rappel. Oui. Idéalement, on aurait une intolérance moyenne au doute, ajoute le chercheur. On réfléchirait, mais sans se laisser submerger. On explorerait les solutions sans tomber dans l'anxiété ou l'empathie. Et on le trouve comment, cet équilibre-là? Ah, ça c'est une bonne question, répond Cédric Corcial qui, j'ai oublié de vous le dire, enseigne la psychologie et la philosophie. C'était « Je doute, donc je décide », un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 18 mars 2026 dans la presse.
Le hockey pour la première fois. Un texte d'Éric Martel, paru le 31 mars 2026 dans la presse. La victoire de Montréal prend les devants. L'ambiance s'enflamme à la place Belle. La vague commence. Comme le veut le rituel, un à un, les partisans de chaque section se lèvent. Seule une poignée de partisans reste cloués à leur chaise, incrédules devant la scène. Pour la première fois, ces 80 immigrants assistent à un match de hockey. Il suffit de se déplacer entre les sièges de la section 104 pour faire le tour du monde. Certains spectateurs ont fui la guerre en Ukraine ou un régime politique fragile en Haïti. D'autres ont quitté la Chine par simple curiosité. Ils sont réfugiés, travailleurs temporaires, arrivant d'une vague migratoire. À ce moment précis, devant cette vague de partisans, seule leur incompréhension les lie. On dirait que les gens ont suivi des cours avant de venir ici. Sans se parler, ils arrivent à faire tous les mêmes gestes en même temps. « Je suis ébloui », pousse Kodjo. Notez que tous les prénoms sont fictifs pour assurer la sécurité de la famille des intervenants. Cette surprise, ce moment d'incompréhension devant de nouvelles mœurs et coutumes, Kodjo les vit au quotidien depuis son départ du Togo à la fin de 2021. Faire l'épicerie, prendre le métro, payer ses factures. Une à une, il a dû apprendre ses banalités du quotidien. Tout ça sans ses quatre enfants, qu'il a dû laisser derrière pour obtenir l'asile au Canada. Chaque jour, il ignore si les siens sont en sécurité. Je regarde le match et je me dis qu'ils adoreraient ça, lâche-t-il le regard embué. Un bon coup de coude le sort de sa mélancolie. C'est son amie et voisine de siège, Emma, qui pointe la cage de la victoire en gloussant. Au milieu de l'action, Anne-Renée Desbiens a quitté son filet en raison d'une pénalité à retardement. Une séquence banale pour l'amateur de hockey moyen, mais qui peut prêter à confusion lorsqu'on assiste à un premier match. Les couleurs, l'ambiance, c'est tellement beau que c'en est émouvant, s'enthousiasme Emma en admirant la foule. Quelques heures avant le match, l'immigrante du Cameroun pensait pourtant rester à la maison en raison de la neige. « Je la déteste », s'époumonne-t-elle avec un large sourire. Mais de savoir que c'est un peu grâce à elle qu'on a les patinoires, ça rendra peut-être l'hiver plus facile à accepter. « Moi aussi, j'ai considéré ne pas venir », ajoute Kodjo. « Mais maintenant, je comprends pourquoi c'était important que je sois là. Le hockey, ça semble gravé dans votre culture. » Tel était justement l'objectif des organisateurs de l'événement. Permettre aux participants de découvrir un élément central de la culture locale. un pan méconnu ou parfois inaccessible par son caractère onéreux. Si tu ne connais rien à une culture locale, tu n'auras aucun point d'attache. Maintenant, quand on parlera de hockey à ces gens, ils pourront dire qu'ils ont vu un match, résume la conseillère en intégration sociale du Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants, Carrie Saint-Laurent, Laure Poisson. Incursion dans la culture d'ici. Signe que l'organisme a bien cerné les besoins de ses utilisateurs, 150 d'entre eux ont manifesté leur intérêt pour assister au match. Au préalable, on leur a offert une séance d'information lors de laquelle les rudiments de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, leur ont été expliqués. Reste qu'il faudra plus d'une partie pour comprendre toutes les subtilités du sport. Lors des premières minutes de jeu, Zlata Paltchouk et sa mère ignoraient si elles devaient applaudir les joueuses en blanc ou en Bourgogne. Cela ne les a pas empêchés de savourer pleinement la soirée. Pendant un extrait de la soirée canadienne, elles ne pouvaient s'empêcher de danser en tapant du pied et des mains. C'est drôle. Je ne me suis jamais sentie aussi canadienne qu'aujourd'hui, témoigne Zlata Paltchouk. Depuis son arrivée au Canada, Zlata a appris à sourire pour survivre. En février 2022, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, son frère et elle ont été confinés à un abri anti-bombe pendant un mois. Sans lit, ils partageaient une table sur laquelle ils tentaient tant bien que mal de dormir. Comme le conflit s'envenimait, ils sont partis vers la Pologne puis le Canada. Je pleurais tout le temps au début. J'étais tellement stressée, mais j'ai vite réalisé que je n'avais pas le temps de me lamenter. Je devais apprendre une nouvelle langue, m'acclimater, énumère-t-elle. Au cœur de son processus d'intégration, le pourcentage d'efficacité du Canadien en supériorité numérique était le dernier de ses soucis. Maintenant qu'elle se sent à la maison, Zlata compte bien retourner voir des matchs de hockey. C'est vraiment incroyable. Les joueuses sont si rapides, je ne pensais pas que ce serait si impressionnant, admet-elle. Sa phrase à peine terminée, Laura Stacy lui offre une raison de s'émouvoir. Elle déculotte complètement Anna Murphy et donne une avance de 2 buts à la victoire. Camilia Jamario bondit de son siège. Contrairement à ses compatriotes de section, elle arbore fièrement le chandail de la victoire qu'elle a reçu de ses parents comme cadeau de Noël. En Colombie, elle a passé son adolescence à rêver au Canada. Le pays dans lequel ses parents tentaient d'immigrer pour de meilleures perspectives professionnelles. À Cali, son cœur battait déjà pour le hockey. Elle connaissait tous les règlements, faisait même partie d'une équipe sur roulette. 10 ans après leur première tentative, ils ont réussi à immigrer au pays. La première chose que j'ai faite avec ma mère, c'est d'explorer tous les arénas, raconte Camilia, aujourd'hui âgée de 23 ans. Je voulais absolument savoir ce que c'était, patiner. Lorsqu'elle regarde Laura Stacy marquer un but d'assurance, elle se voit. Elle s'imagine sur la glace. Elle se dit que si elle avait immigré plus tôt, elle aurait peut-être eu la chance elle aussi de jouer chez les professionnels. Il n'est heureusement pas trop tard. Dans les prochains mois, Camilla tentera de faire ses débuts au hockey, cette fois sur la glace. De voir les joueuses de la victoire, ça m'inspire. Je sais comment elles ont travaillé fort pour être là. Ça me fait rêver pour le reste de ma vie ici, affirme-t-elle. Les dernières secondes du match s'écoulent. Voilà la vague qui renaît. À l'autre bout de l'aréna, siège par siège, les partisans se lèvent. Cette fois, tout le monde est debout, tous, même les 80 partisans de la section 104. C'était « Le hockey pour la première fois », un texte d'Éric Martel paru le 31 mars 2026 dans la presse.
Un troisième spectacle à Québec en 7 mois pour Honeymoon Suite, un texte de Yann Bussière, paru le 8 avril 2026 dans Le Soleil. Le groupe ontarien Honeymoon Suite reviendra à Québec pour la troisième fois en 7 mois. Après des prestations à guichet fermé au Capitole en novembre et en mars, la bande du chanteur Johnny D sera en effet de retour le 27 juin, cette fois à l'Agora du port de Québec, avec une autre gloire canadienne des années 1980, le groupe de Colombie-Britannique Headpins, en première partie. Honeymoon Suite, qui peut toujours compter non seulement sur Dee, mais aussi sur le guitariste Derry Grahan et le batteur Dave Betts comme membres ayant joué sur leur tout premier album, a lancé l'an dernier son 9e opus intitulé « Wake Me Up When the Sun Goes Down » sur l'étiquette Frontiers Records. Le quintet est maintenant complété par l'ancien bassiste du groupe Toronto, Gary Lalonde, et par le claviériste Peter Nunn. Le claviériste et guitariste Alfie Galpin, le batteur Bernie Aubin, la chanteuse Kat Lawrence, le bassiste Ad Bryant et le guitariste Anthony Della Croce du groupe Headpins. Headpins. Pour ce qui est de Headpins, seule la section rythmique formée du bassiste Ad Bryant et du batteur Bernie Aubin a survécu, 44 ans après le premier album Turn It Loud, et le groupe n'a lancé aucun nouveau matériel depuis 1985. La chanteuse Darby Mills, qui apparaît sur les 3 albums du groupe, a pris sa retraite en 2016 pour être remplacée d'abord par Chrissy Steele, puis Kat Lawrence, puis par l'ex-participante de La Voix et ex-choriste d'Éric Lapointe, Rosa Larrichuita. Cette dernière, qui a quitté le navire en 2024 pour devenir la chanteuse du groupe américain Vixen et Lawrence, est depuis rentrée au bercail pour remplacer celle qui avait pris sa place. Quant au guitariste Brian Too Loud McLeod, qui faisait partie du groupe Chilliwack avec Bryant avant que les deux ne quittent pour fonder Headpins, il est décédé en 1992. Ce sont désormais le guitariste Anthony Della Croce et le claviériste Alfie Galpin qui complètent le quintet. C'était un troisième spectacle à Québec en 7 mois pour Honeymoon Suite, un texte de Yann Bussière paru le 8 avril 2026 dans Le Soleil.